L'un des soirs, elle me présente une autre plante qui s'appelle le tepescoïte, tepescoïte à la française, qui est en fait l'arbre à peau maya. Donc elle me présente ça. Et en fait, il faut savoir que c'est comme beaucoup de matières premières, c'est pas très sexy au départ. C'est en fait une écorce d'arbre.
Bonjour, bienvenue sur Beauty Toaster. Certains voyages peuvent bouleverser un chemin tout tracé, une belle carrière et peut-être une vie tout entière. Aujourd'hui, je vous invite à écouter l'aventure d'Elena Mendes. Si vous adorez comme moi les parcours atypiques, vous allez voir que le sien atteint des sommets. Cette jeune femme, polyglotte, diplomate de haut vol, spécialisée dans l'écologie et les conflits internationaux, est également une globe-trotteuse qui aime aller se ressourcer dans les endroits les plus reculés de la planète lorsqu'elle veut faire une pause. Le jour où elle a demandé à sa sœur de lui faire découvrir le Mexique autrement, elle était loin d'imaginer que ces quelques jours passés dans le Chiapas au contact des femmes mayas allaient à ce point transformer sa vie. Le récit hors du commun d'Elena a résonné en moi pendant plusieurs jours et m'a donné une énergie incroyable. Mais je ne vous en dis pas plus. Allez, à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster. Bonjour Elena.
Bonjour Chantal.
Comment décide-t-on de devenir diplomate ? Vous étiez une petite fille idéaliste à la base ?
Eh bien écoutez, pas du tout. J'étais plutôt une fille assez terre à terre. Et en fait, parfois dans la vie, il arrive des petits parcours comme ça où vous avez des incidents, on va dire ça comme ça. Moi, au départ, je voulais devenir avocate, pour tout vous dire. Donc, mon papa me disait, ah, je te verrais bien en avocate. Et comme j'adorais mon papa, je me suis dit, bon, bah, écoute, je vais suivre ce qu'il propose. Et ça me dérangeait pas. J'avais des facilités à l'école. Donc, j'ai suivi des études de droit après le bac. Donc, première année, etc. Sauf que je m'embêtais un petit peu. C'était pas trop mon truc. Souvent, quand on suit aussi le parcours des parents, on se rend compte que bah, finalement, c'est pas trop ça. Ça arrive aussi. Mais j'étais plutôt bonne élève. Et il s'avère qu'en première année de droit, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais à l'époque, on avait un module sur les relations internationales. Et donc, j'assiste au module et là, c'est la révélation. Je me dis, mais c'est vachement passionnant. Je découvre en fait ce qu'on appelle la scène multilatérale, avec tout ce qui est négociations interétatiques, les Nations Unies, l'OCDE, la Banque mondiale, etc. Et je sais pas si ça parle à tout le monde, mais moi, en tout cas à l'époque, j'ai trouvé ça fascinant. Fascinant. Autant le droit pour le droit moyen, autant ça.
Ça
m'a plu tout de suite. Et là, je me suis dit, ah, intéressant. Bon, malgré tout, j'ai poursuivi dans le droit. Et après, en licence, en L3, donc, à l'époque, je me suis spécialisée. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait une spécialisation en sciences politiques, relations internationales, et que j'ai poursuivi comme ça dans la voie, donc de stage en stage, parce que c'est les stages obligatoires. Donc, premier stage aux Nations Unies à Genève. Là, on est vraiment axé sur les droits de l'homme. Donc j'ai travaillé d'abord là, et ensuite j'ai travaillé aux Nations Unies à New York. Donc pour la mission permanente, donc j'ai pas envie de vous abreuver d'informations, mais en gros, c'est donc vous travaillez pour donc chaque État est représenté donc aux Nations Unies, comme vous devez savoir, et chaque conseiller a des axes selon les conférences. Donc ça va être les droits de l'homme, l'économie, etc. Et donc moi, je travaillais en fait en tant que sur différents niveaux, j'épaulais et ça m'a encore plus conforté dans ma voix. Et donc au fur et à mesure, je me suis dit non, mais c'est vraiment ça que je vais faire. Et après, j'ai fini par devenir political advisor, donc notamment pour les négociations et gestion des conflits armés, donc au Kenya. Donc j'ai vécu au Kenya, notamment je m'occupais de la Corne de l'Afrique. Donc tous les conflits armés qu'on a dans la Corne de l'Afrique, donc pour un think tank. Un think tank, c'est un centre de recherche et en fait, on fait du lobbying, en fait, voilà. Quand il y a des gestions, des conflits armés comme ça, nous, on intervient en parallèle et on rencontre les acteurs pour essayer de trouver des solutions.
Pour négocier,
etc. Exactement. Donc ça m'a vachement plu également. Et donc, c'est comme ça que j'ai évolué sur la scène internationale, sur différents postes. Et l'un des derniers, c'était également négociatrice dans le cadre de la COP21.
Oui.
Je pense que ça parle à tout le monde. Écologie, exactement. Pour les pays du Sud, en fait, tout simplement. Donc, j'étais basée à Songo, en Corée du Sud. J'ai pas mal voyagé.
Ouais, vous avez pas mal voyagé. Ouais. D'ailleurs, vous êtes polyglotte, hein?
En effet, je suis polyglotte, ouais.
Vous parlez un nombre impressionnant de langues.
Ouais, je parle 7 langues. Pour moi, c'est très naturel. Je vais vous expliquer pourquoi.
Ouais.
Je suis d'origine africaine, en fait. Donc, déjà, mon ethnie, elle est située entre 3 pays. Entre la Guinée-Bissau, qui est lusophone, le Sénégal, qui est francophone, et la Gambie, qui est anglophone. Donc déjà, oui. Ma famille est répartie sur ces 3 pays, donc déjà 3 langues de base. Vous voyez,
ouais.
Sachant qu'en plus, dans ces pays-là, il y a les dialectes locaux. Donc au Sénégal, on va parler Wolof, en Guinée, on va parler créole, on parle un créole, une variante du portugais. Donc voilà, donc tout ça, pour moi, c'était naturel, en fait.
Ouais.
C'était facile pour moi.
Apprendre les langues, c'est une seconde nature.
C'est une seconde nature. Je vous laisse imaginer les repas de Noël à la maison.
Ça doit être sympa.
C'est sympa. On suit d'une langue à l'autre sans souci. C'est pas un problème chez nous. Donc voilà, pour moi, c'était naturel, tout simplement. Ouais.
Et donc, vous avez un travail super prenant. Et pour ne pas perdre pied, votre truc, c'est de voyager.
Absolument.
Hein, avec un sac à dos et d'aller au contact des gens très éloignés de votre univers.
Absolument.
En général. Bah,
c'est ça. Bah, faut vraiment imaginer le job que je faisais. C'est quand même très prenant. Nous, on n'est pas sur les semaines à 35 heures. Hein. Si on fait 70 heures, c'est déjà une bonne semaine. Vous voyez ce que je veux dire?
D'accord, oui.
Voilà, c'est pour vous donner un peu le rythme de travail. On travaille pour des objectifs. Tant qu'on ne l'a pas atteint, bah, on n'arrête pas. Donc, c'est des rendez-vous, c'est des préparations, c'est des réunions longues. Oui, après, vous soumettez le projet à... Alors, ça dépend. Soit c'était l'ambassadeur, des fois, c'est le chef d'État, ça dépend. Si ça ne va pas, vous reprenez, etc. Vous voyez, c'est des,
c'est
des politiques qu'il faut suivre, voilà. Avec des objectifs, parce que eux, derrière, ils ont des résultats à prouver. Donc, pas forcément évident, donc très harassant. Et quand vous sortez de là, bah, vous êtes un peu crevé. C'est tout à fait normal.
Mais justement, vous auriez plutôt... eu envie, je pense, de tranquillement rester tranquillement à la maison.
Ça, c'est pas moi. Ça, je le fais de temps en temps, parce que des moments où on a besoin de calme total.
Voilà, de se ressourcer.
Mais moi, j'ai besoin d'aller au contact des gens, en fait. Et quand, vous avez compris, je suis polyglotte, j'adore rencontrer les gens, je suis un métier du voyage, etc. Quand je suis dans un pays comme ça, ce que je faisais, après des réunions, donc souvent, quand on est en déplacement, on est dans les grands hôtels, c'est sympa, mais la capitale, c'est pas la vraie vie, en fait. C'est pas les vrais gens, c'est pas les vrais locaux. Il y a beaucoup d'expats dans les capitales, en plus.
Oui, oui, donc, c'est international, en général.
C'est international, vous voyez. Donc, tout le monde parle anglais et c'est très bien. Sauf que c'est pas les vrais gens. Et par moments, ça m'amusait un peu. Donc, ce que je faisais, c'est que je prenais avec moi un traducteur. On louait une voiture, donc je prenais un chauffeur et je disais, bon, on va aller à tel endroit. Et on prenait la voiture et on traversait le pays. Et je disais, bon, faut trouver un village dans lequel on va pouvoir passer la nuit ou quelques jours. Et c'est ce que je faisais littéralement en sac à dos. Et ça, là, je prenais mon pied. Vous voyez, c'est quelque chose que je faisais. Pour moi, c'était normal, en fait. Je prenais mon sac à dos, un petit carnet, mon téléphone ou un appareil photo, et on y allait. Et c'était des expériences humaines, mais passionnantes.
Bah oui.
Parce que vous ne parlez pas du tout la même langue.
Ouais,
là, pour le coup, c'est le langage des signes. Il y a le traducteur, forcément, mais il y a le langage universel.
Voilà, il faut faire passer quelque chose.
Il y a des messages à faire passer. Ouais. Et un sourire, c'est universel. Le langage du cœur, c'est universel. Et ça, moi, ça me fait vibrer. C'est quelque chose qui me touche profondément.
Ouais.
En semaine, après, je retournais au charbon,
oui.
On va dire ça comme
et après,
ça. Et hop, voilà.
Vous switchiez.
On switchait, exactement.
Et un jour, dans un pays, vous faites une rencontre déterminante.
Exactement.
Racontez-nous.
Voilà, à nouveau, après un round de discussion assez compliqué, etc., j'appelle ma sœur. Faut savoir que j'ai une sœur qui vit au Mexique depuis maintenant 8 ans.
D'accord.
Oui, on est tous...
tous éparpillés dans le monde.
Tous éparpillés dans le monde.
D'accord.
Donc, j'appelle ma sœur en disant, écoute, j'ai besoin de vacances, donc je pense que je vais venir vers chez toi. Donc, prépare-moi un petit programme aux petits oignons. Voilà, on va louer une voiture, on va traverser le Mexique. Ça te dit? Elle me dit, ah ouais, pourquoi pas, c'est hyper sympa. Ok, je m'en occupe, etc. Donc, j'arrive au Mexique. Elle me dit, bah super, tout est prêt. Et j'ai même une surprise pour toi. Il y a Martha, qui est sa meilleure amie, qui est d'origine maya. On va pouvoir aller jusqu'à chez elle, dans le Chiapas, une des régions qu'on allait traverser.
D'accord.
Et alors, super contente, ça va être sympa, etc. Donc, on le fait. Et en fait, on atterrit en fait, dans le Chiapas, dans une région qui est une région un peu reculée. C'est l'une des régions les plus pauvres, en fait, du Mexique. C'est un pays émergent, le Mexique, mais il y a des régions qui sont un peu délaissées par rapport à d'autres. Et c'est même une région un peu, parfois un peu instable, avec souvent des manifestations. Enfin, c'est un peu compliqué.
Ouais, c'est un peu
voilà,
compliqué.
C'est un peu compliqué. Mais une population, comme d'habitude, chaque fois, très charmante, très accueillante, très ouverte, etc. Et nous, on atterrit comme ça dans le petit village de Martha, donc. Et là, c'est la révélation. C'est la grande révélation. J'en ai fait des voyages en sac à dos. Mais alors, celle-là, c'est celle qui m'a retourné le cerveau.
C'est vrai,
tout simplement.
Carrément.
Mais carrément. Je pèse mes mots quand je dis ça. Puisque, en fait, moi, j'ai une maman qui est naturopathe, donc d'origine africaine. Il faut savoir que chez moi, la mort à pharmacie, elle est réduite à peau de chagrin. On soigne vraiment tout par la nature.
D'accord.
Les petits bobos, les problèmes de règles douloureuses, etc. Maman a toujours une décoction quelque part qui est prête. Elle est prête à dégainer pour soigner.
Pas de molécules,
etc. Voilà.
Chimiques.
Non, le Doliprane, c'est vraiment dernier recours.
Ouais,
vous voyez.
Ouais.
Et ça, c'est le médicament le plus soft qu'on peut avoir dans une armoire à pharmacie.
Voilà.
Donc, c'est pour vous dire un peu le.
La démarche,
ouais. L'univers dans lequel j'ai grandi.
Ouais.
Et quand j'arrive là-bas, que je découvre ça, je me dis, waouh, c'est quand même extraordinaire. Une population qui n'a absolument rien à voir, a priori, avec la population africaine, d'origine africaine, qui a plus ou moins des rituels qui sont similaires. On n'a pas la même religion, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même langue, on n'a rien. Et on se retrouve à faire des choses identiques.
Point commun, ouais.
Moi, ça m'a bouleversée.
Ouais, c'est ça.
Ça m'a bouleversée.
Ouais.
J'ai trouvé ça mais merveilleux.
Il y a l'océan entre les deux.
Et c'est ça, il y a l'océan. C'est pas comme si on traversait juste la rue. Non, il y a l'océan. C'est-à-dire que quand, en plus, moi, je suis arrivée dans le village et ils n'avaient jamais rencontré de femmes noires. Vous voyez,
ouais.
Les Mayas sont très petits de taille.
Oui.
Moi, je suis pas très grande, mais je suis
Vous êtes plus grande.
Je suis plus grande, vous voyez. Et donc, du coup, quand j'arrivais là-bas, on me regardait comme ça. Les gens étaient, mais c'est normal, hein. Et les gens me venaient, ils avaient peur, ils reculaient, ils me touchaient.
Ouais.
Enfin, faut voir un peu. Enfin, j'aime bien le dire, mais c'était voyage inter-inconnu, sans caméra, sans rien, vous voyez.
Ouais.
Et c'était vraiment, c'était des rapports directs,
direct.
Vous voyez, directs et francs. Et donc, imaginez un peu le cocktail Molotov. Je rencontre ça, je me dis waouh, mais c'est merveilleux ce qu'elles font avec la nature, tout ce qu'elles me présentent, etc. L'environnement, c'était magnifique, c'était la beauté brute, mais tout était naturel. On n'avait pas forcément d'électricité toute la journée. Il y a des plages horaires où on n'en avait pas. C'était compliqué. Enfin, voilà. Ça, moi, je suis habituée à ça, de toute façon. Donc, ce n'était pas un souci. Mais quand je découvre ça, je me dis, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et donc, on vit dans les mêmes conditions qu'eux. C'est-à-dire qu'on fait tout pareil. Donc, le matin, les hommes vont au champ. Les femmes s'occupent des enfants. Et après, on fait les récoltes. On va vendre les produits sur le bord de la route. Donc, en l'occurrence, des pommes de terre, etc.
Vous y alliez aussi.
Ouais, ouais.
D'accord.
Et ma frangine, on faisait. Ouais, absolument. On faisait les mêmes activités. Et ça, c'est ce que je voulais, ce que j'avais dit à ma sœur.
Oui.
Je voulais des vacances dépaysantes. Pour faire vraiment autre chose. Vous voyez, ça change de ce que je faisais.
Les négociations à l'ONU.
Exactement. Et donc, c'est ce qu'on fait. Et donc, ça, et puis, on n'avait pas Internet, on n'avait rien. Donc, c'est une déconnexion totale. Et là, ça fait du bien, vous voyez.
Ouais.
Et donc, on fait ça. Et puis, le soir, donc on retourne, on va à la cuisine, on prépare le repas, etc. Et donc, il faut savoir que dans les maisons mayas, en fait, traditionnellement, on se réchauffe avec un feu, donc le foyer qui est au centre, et les gens s'assoient autour du foyer, parce qu'il fait froid un peu le soir, on s'assoit autour, et les femmes cuisinent comme ça, et les hommes sont soit à côté et ils discutent avec nous, soit ils sont dans une autre pièce et ils sont entre eux, ils discutent entre eux. Et les enfants jouent autour avec les chiens, etc. Et donc, on prépare comme ça le repas, etc. Donc ça crée encore plus de lien. C'est ça. Donc, hyper passionnant. Et le soir, donc, quand c'est terminé, le repas est servi, donc on dîne tous ensemble. Et les Mayas ont des rituels. En l'occurrence, ce qu'on appelle le temazcal. Alors, je ne sais pas si ça parle à grand monde. En France, on connaît plus le hammam, qui est assez populaire, etc. Le temazcal, c'est un rituel maya qui existe depuis toujours, en fait, et qui est un peu à la fois un rituel avec de la vapeur chaude. Et quand il y a un chaman, un côté un peu mystique, ça dépend. Vous avez les deux pendants. Donc là, je fais très court en raccourci,
mais si
vous regardez sur Internet, vous allez trouver pas mal de choses. Et toutes les maisons mayas, toutes les casitas mayas ont ça derrière.
D'accord. C'est comme un hammam.
C'est comme un hammam chez soi.
C'est
creusé sous la terre, par contre. C'est,
d'accord.
Alors, vous avez le foyer qui ressort.
D'accord.
Pour que la fumée puisse s'évaporer.
Et c'est un endroit fermé.
C'est un endroit fermé, exactement.
C'est comme une hutte.
C'est comme une hutte, exactement. C'est le bon terme. C'est comme une hutte. Donc c'est avec des grosses pierres avec, je pense, du béton. Et à l'intérieur, c'est des planches de bois sec. Donc vous, ça, on le fait par sexe, donc les D'accord. femmes entre elles et les hommes entre okay. eux. Et tous les soirs, les Mayas le font. Littéralement tous les soirs. Donc nous on le faisait après, donc après avoir couché les enfants, les femmes on le faisait, et donc on y va. C'est très sombre, on se voit pas à l'intérieur, hein, comme le hammam ouais. au pesoir, mais là c'est très sombre pour ouais, le coup. Ouais. Et donc il y a une des filles qui va se mettre dans le fond et qui va récupérer des, alors je sais pas si c'est des feuilles de bananier ou je sais pas, ou de palmier, je sais pas, mais en tout cas des grandes feuilles hein, qu'elle fait tremper dans de l'eau et qu'elle va se faire sortir de l'eau et qu'elle va utiliser pour nous asperger, voilà, nous arroser exactement. D'accord. Et ça fait du bien. Donc nous on est du coup assises ou couchées au choix et on est de l'autre côté et en fait on profite en fait de ces effets là tout d'accord, simplement et d'accord. ça c'est un rituel qui est juste euphorisant, ça permet d'ouvrir les pores donc sur tout le corps hein. Mmh. Et après vous prenez du savon, donc souvent elles ont du savon alors là pour le coup c'était du savon traditionnel
ouais, d'accord, pour le coup. Okay.
Et après on se nettoyait comme ça. Okay. Sur la peau. Et donc, tous les soirs, moi, je découvre des choses comme ça. Ouais. Vous imaginez dans l'environnement dans lequel je suis. Ouais. Mais c'est juste merveilleux.
Ouais, ouais.
Et là, avec ma sœur, on se dit, mais c'est les meilleures vacances de notre vie, quoi. c'est juste canon.
Ouais.
On n'a jamais vu ça. On ne savait même pas que ça existait, fait. Et là, on se dit, non, mais c'est y a un truc à faire. Faut que les gens découvrent ça. C'est passionnant. Il y a plein de personnes qui s'intéresseraient à ça. L'authenticité, etc. C'est splendide. Donc on découvre ça et tous les soirs, on a droit à des nouveaux rituels parce que les Mayas sont très coquettes en fait, très coquettes. Et l'un des soirs, elle me présente une autre plante qui s'appelle le tepescoite, tepescoite à la française, ouais. qui est en fait l'arbre à peau maya. Donc elle me présente ça et en fait, il faut savoir que c'est comme beaucoup de matières premières, c'est pas très sexy au départ, c'est en fait une écorce. D'arbre.
D'accord.
Donc, c'est pas, je sais pas, c'est pas le chêne, c'est pas un bouleau, c'est un arbre local, hein, et pour lequel, en fait, les femmes, donc, selon une façon bien particulière, avec le respect de la lune, etc., il y a un cycle pour pouvoir aller chercher la plante. Là, ouais. Et donc, en fait, on racle avec un couteau et on récupère l'écorce.
Okay.
Par contre, faut pas récupérer n'importe comment, parce qu'il faut respecter l'arbre, etc., on peut pas aller tout le temps sur le même endroit.
On peut pas saigner l'arbre.
Non, absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Et donc, elle récupère ça et elle me montre, elle me dit, bah voilà, ça, Elena, c'est ce qu'on utilise. C'est le tepescoïte. Et je leur dis, mais qu'est-ce que c'est exactement? Elle m'explique et elle me dit, c'est en fait, c'est ce qu'on appelle, nous, l'arbre à peau, parce qu'on fait tout avec. J'ai dit, ah, et c'est ce qui explique, en fait, la qualité de vos peaux. Parce que certaines femmes étaient âgées, avaient peut-être 65 ans, 70 ans, mais elles avaient des peaux hyper liftées.
Ouais.
Et je dis, ah, donc c'est ce que vous utilisez. Et elle me dit, en effet. Et donc, elle montre la préparation et je trouve ça hyper passionnant. Forcément, mes réflexes de fille de naturopathe reviennent. Je prends des notes, je prends des photos. Je me dis, ah non, mais c'est passionnant. Voilà. Et donc, voilà l'environnement dans lequel je vis. Voilà.
D'accord.
Donc, ça durait quoi, 15 jours? Mais 15 jours...
C'est intense.
Intense, quoi. Intense. Pour moi, j'ai vécu 3 mois.
Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, vous n'êtes pas cosmétologue. Alors, comment avez-vous fait pour concevoir les formules de Mawena, notamment inspirées de ces rituels et de cet ingrédient?
Oui, en effet, je ne suis pas cosmétologue. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, donc, quand je reviens à Paris, le point de départ, c'était d'essayer de mettre en relation les femmes de la communauté avec des laboratoires en France, parce que l'idée, ce n'était pas de créer une marque. Pour tout vous dire, parce que j'avais une activité très prenante, j'étais dans autre chose, donc on ne se réveillait pas du jour au lendemain en disant « Tiens, je vais créer une marque ».
Ouais, non.
non, ça n'arrive pas. Non. Donc l'idée, c'était vraiment de mettre en relation les femmes de la communauté avec un labo pour qu'elles puissent, elles, travailler et valoriser, en fait.
Valoriser et gagner de l'argent.
Exactement, voilà.
Ouais, bien sûr.
Le point de départ, il était vraiment là. Sauf que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Parce que déjà, d'une, il y avait un peu la barrière de la langue. Toutes ne parlent pas espagnol couramment. Donc ça, c'est pas forcément évident. Donc c'était soit moi, soit ma sœur, soit
Martha. Il fallait un traducteur. Il fallait un intermédiaire.
Voilà. C'était pas forcément évident. Il y a cette relation de confiance aussi qui joue. Et à juste titre, d'ailleurs. À juste titre. Parce que les Mayas, on sait tous un peu comment ça s'est un peu passé.
Ouais, voilà. Ouais.
Donc pas forcément évident. Il y a pas mal d'éléments qui ont fait que ça s'est jamais vraiment fait. La mayonnaise n'a jamais vraiment pris. Donc, du coup, ce qu'on fait, donc on s'appelle, on discute avec ma sœur et Martin, on se dit, ça va être un peu compliqué, cette histoire. Peut-être qu'il faut faire un peu les choses différemment. À ce moment-là, on réfléchit, et on se dit, peut-être il faut peut-être voir comment on peut, nous, créer des petites formules, mais toujours sans créer des produits comme vous les connaissez aujourd'hui, oui. Hein, quelque chose de très basique pour permettre en fait de lancer quelque chose. Et après, on passera le bébé à quelqu'un qui sera plus opérationnel. Parce qu'encore une fois, on est tout en activité à ce moment-là.
Oui, c'est ça. Vous n'avez pas du tout l'intention de vous lancer dans les cosmétiques.
Absolument pas. C'était pas mon rêve.
L'idée, c'était d'aider la communauté, mais pas sans vous impliquer plus.
Sans m'impliquer plus que ça. Voilà. Mmh. Juste tendre la main, voilà. Et puis, continuer mon petit bonhomme de chemin. Et voilà. Et en fait, donc j'arrive à Paris, je contacte des gens un peu ici et là, donc et je me rends compte que c'est un peu compliqué de trouver des prestataires, des partenaires prêts à vous aider sur cette partie-là. Déjà, donc je les appelle en expliquant que je suis pas cosmétologue, ok, ça passe un peu moyen. Enfin, est-ce qu'on va se comprendre? Ensuite, une fois qu'on a passé cette barrière, vient la question de votre plante Maya, là, elle sort d'où? Vous avez des éléments? Vous dites qu'elle fait ci, elle fait ça, elle fait ci, elle fait ça, mais
Les preuves,
où sont-elles? Ah ben écoutez, j'ai rien décrit. Moi, je sors d'un voyage, en fait, pour tout vous dire. J'étais pas très crédible, c'était pas possible. Donc là, je me rends compte que c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. Entre-temps, moi, je repars. Enfin, mon activité continue, donc je repars mon avion, je repars au boulot. Donc, ça prend du temps, c'est lent, etc. Voilà, un peu gêné. Et en fait, je finis un peu par abandonner parce que je me dis, je sais pas, j'ai pas m'en sortir, c'est compliqué. Jusqu'au jour où je tombe sur un prestataire qui, lui, son cœur de travail, son expertise, c'est de faire de l'éco-extraction. C'est-à-dire qu'il est capable d'extraire sur n'importe quelle partie d'une plante, ça peut être la tige, la feuille, l'écorce, etc., n'importe, hein, la molécule la plus active à partir de là en faisant une éco-extraction sans solvant. Donc déjà, ça me parle un peu plus.
Ouais,
vous voyez,
ouais.
Donc on se contacte, on fait, je crois, une conf call, j'étais à l'étranger, et là ils me disent, mais Elena, nous on peut vous appuyer sur cette partie-là. On peut vous appuyer, on peut même faire la recherche documentaire sur le TPS-coïté, on a la capacité de le faire. Nous, c'est ce qu'on fait déjà pour d'autres marques. C'est notre cœur de métier. Et là, je me dis, bingo, on a un truc. Et enfin, je reprends le sourire et c'est là que je lance le truc, en fait. Et l'idée, c'est donc, toujours encore une fois, c'est pas encore de créer une marque, c'est vraiment de créer quelque chose à partir de la plante Maya et de la donner à faire ce qu'on appelle du B2B et à la donner à des professionnels.
Ouais.
Voilà. Sauf que les premiers tests passent et là, il y a la directrice qui finit un jour par m'appeler et qui me dit, Elena, faut qu'on se rencontre, j'ai les résultats, faut que je vous les présente de vive voix. On ne fera pas ça à distance. Et là, oui. Je me dis, c'est sérieux. Quand la directrice du laboratoire vous appelle et vous dit ça, vous devez de vous déplacer. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'intéressant derrière.
Bien sûr.
Et donc, elle me présente les résultats. Et là, je tombe des nues. Elle me dit, le TPS-coïté, effectivement, c'est pas une plante qui est très connue. Elle est connue dans le domaine médical, mais dans le domaine de la cosméto, beaucoup moins.
D'accord.
Elle a des propriétés hyper intéressantes. Elle est riche. Alors, elle est riche en plein de choses. Elle est riche en tanins, en flavoïdes, en saponocides. Elle a des propriétés sur les radicaux libres.
D'accord. Elle est antioxydante,
etc. Et on se dit, il y a quelque chose à faire. Et effectivement, elle monte des graphiques. Je vois, elle compare ça avec de l'huile d'olive extra vierge, etc. Les flèches montent dans tous les sens, etc. Ouais. Elle me dit, il y a quelque chose à faire. Retournez là où vous devez retourner. Réfléchissez. Parlez-en autour de vous avec votre sœur et votre ami, réfléchissez, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et travaillez votre sourcing. C'est-à-dire que c'est hyper important. Et donc, j'appelle ma sœur, on fait avec Martin, on discute, et on se dit, écoute, ce qu'on peut faire, c'est mettre en place une coopérative, tout simplement. Logiquement, tout simplement, une coopérative, on réunit les femmes les plus motivées et en fait, elles récoltent la plante selon leur rituel habituel, donc il n'y a pas de souci, ça ne change rien de leur habitude, sauf qu'on les paye.
Voilà.
Voilà, la seule différence, c'est la rémunération. Ouais. On les paye directement. On détermine le prix ensemble. Voilà. Ouais. Comme on n'avait pas de prix de vente, parce qu'en fait, ce n'est pas une plante qui se vend ailleurs, donc on n'avait pas de prix de vente. Donc on a regardé à peu près les matières premières les plus nobles qui existent, la figue de Barbarie, le safran, etc. On a regardé un peu les moyennes de prix. Et on s'est calé par rapport à ça. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on a un prix assez élevé, finalement, en termes d'achat pour elle, ce qui est très intéressant. Et on partirait de ça. Et donc, c'est ce qu'on a fait, en fait. Tout simplement, on est parti de là et on a construit en fait l'offre à partir de cet actif comme ça.
D'accord, ok.
Voilà. Et donc c'est parce que je me suis fait accompagner ces personnes-là que j'ai pu aller jusqu'au bout.
Voilà.
Autrement, on aurait fait chou blanc.
Ouais, c'est clair. Ouais. Et donc c'est quoi le cahier des charges pour les formules de Mawena du coup? C'est 3-5 ingrédients maxi.
Alors, du coup, quand on a commencé à travailler le cahier des charges, donc on savait qu'on voulait créer une marque, etc., donc plutôt quali. Pour moi, c'était important en tant que consommatrice. Donc, à ce moment-là, je suis encore consommatrice, même si j'allais créer ma boîte, etc., mais dans ma tête, je suis une consommatrice. Donc, je voulais des produits que je puisse utiliser quotidiennement, en toute sécurité. Donc, le cahier des charges, c'était d'abord des formules, alors sans classique, mais sans SLS, sans PEG, sans EDTA, etc. Donc, parce que je voulais prendre le moindre risque sans phénoxyéthanol, c'était tellement évident.
Évident.
Voilà, c'était une évidence pour moi. Donc, j'ai commencé à établir un cahier des charges à partir de ça. Donc, les 100.
Ouais. Enlever que je déjà pas. Tout ce que vous vouliez pas.
Exactement, exactement. Mais déjà rien que faire ça et le soumettre à un façonné, c'est un peu compliqué.
Ouais.
Pour formuler les formules, déjà tout le monde ne vous dit pas oui. Il y en a qui vont dire oh non ça c'est compliqué, sans silicone, sans machin. Non non, allez voir quelqu'un d'autre. Mais nous on s'engagerait pas là-dessus. Donc bon, voilà. Et après il y avait aussi l'idée de travailler avec des coopératives. Donc on a la coopérative Maya, mais les matières premières que je sourçais, je prends l'exemple du safran et autres, où on a du moringa et etc. Je voulais travailler avec des petites structures en fait, où je peux garantir en fait que la personne, les petites mains qui sont derrière tout ça, puissent en bénéficier.
Ouais,
de la rémunération.
Bien sûr.
Donc là il y a eu un gros travail de sourcing à travers le monde pour trouver les bons partenaires en fait à ce niveau-là. Donc c'était le cas pour le maroula, pour le moringa,
oui, parce que les matières ne viennent pas que du Mexique,
non,
hein,
non,
on est
non,
d'accord.
Non, 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 le Mexique, c'est l'actif principal.
C'est l'actif principal.
Voilà. Mais on a, pour la couleur canon de nos produits, c'est l'hibiscus, typiquement, et l'hibiscus ne vient. Enfin, il y en a au Mexique d'ailleurs, il y en a. Ouais. La Guadalajara, Jamaïca, c'est l'hibiscus. Mais l'hibiscus que nous on a, il vient de la Guinée. Vous voyez?
D'accord.
Donc donc il fallait chaque fois trouver les bonnes petites coopératives qui respectent en plus notre cahier des charges, parce qu'on on est bio, on est
l'extraction,
etc., en petite quantité, etc. Le respect des saisons, la saisonnalité
aussi.
Vous voyez, moi j'ai une grosse problématique, puisque notamment je pense à mon essence florale rose bambou, on utilise des matières premières qui sont fraîches. Je pense au litchi, par exemple. Le litchi vient des Antilles. Il y a un cycle pour le litchi, qui est en l'occurrence décembre.
D'accord.
Donc moi, ma production de l'année, je dois l'anticiper et l'arrêter à ce moment-là. Donc il va arriver à un moment donné. Donc là, on est encore petit et ça va. On peut gérer, mais il peut y avoir des points de rupture. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de litchi,
parce qu'il n'y a pas
exemple,
de litchi,
tout
voilà,
simplement.
C'est ça.
Voilà. Mais comme on est une marque très engagée, moi j'assume clairement là-dessus, je suis prête à dire à mes consommatrices, sur ce produit-là, si on n'en a plus de litchi, je l'explique, il n'y en a plus, tout simplement.
Voilà. Ce
n'est plus la saison,
voilà.
On a des produits frais,
ouais.
Qu'on transforme de manière artisanale, et si on n'en a pas, il n'y en a pas, tout simplement. Voilà.
C'est ça.
Et les consommateurs sont assez bienveillants, ils le comprennent totalement.
Bien
donc,
sûr,
donc,
bien
voilà.
Sûr. Et alors, les produits s'adressent à des femmes de tous les âges
Oui, les produits s'adressent à des femmes de tous les âges. Donc, vous avez compris que le tepescoïte, l'arbre à peau maya, a des propriétés anti-âge. Donc, forcément, ça s'adresse à toutes les femmes. Par contre, c'est plutôt des femmes qui veulent des produits à une composition hyper clean, en fait. C'est-à-dire qu'elles cherchent l'aspect sécurité du produit qu'elles achètent, en fait. Et là-dessus, elles se reconnaissent vraiment à travers Mawena. On a également les femmes qui s'intéressent aux produits avec des fortes valeurs éthiques.
Et oui.
Et elles viennent très facilement vers nous aussi pour ça. Il faut savoir que nous, on reverse, en plus du prix d'achat de la plante Maya, pour chaque produit vendu, on reverse 2 euros à la coopérative. Vous voyez?
D'accord.
Donc ça, en termes d'engagement, surtout pour une petite structure en mode start-up, c'est un vrai engagement.
Ouais.
Parce qu'on aurait très bien pu en faire autre chose derrière et les réinvestir. Mais non, on les donne à la coopérative. Et ça, pour nous, c'était une évidence. Hein. On n'avait pas réfléchi très longtemps pour mettre ça en place.
Tout à fait.
donc voilà. Donc c'est vraiment toutes ces femmes-là qui veulent vraiment se faire du bien à travers des produits beaux pour du bio. C'est pas forcément évident. Le marché est en train de changer. Tant mieux d'ailleurs.
Ouais.
Mais il y a quelques années.
Ça change. Hein. Oui, il y a quelques années, c'était pas possible.
C'était pas possible. Vous voyez, c'était encore très gras.
Sur des textures horribles.
Parfum, n'en parlons pas.
On n'en parle même pas, ouais.
Exactement. Donc du coup, nous, on est venu en mettant un peu un peu de glamour, même beaucoup de glamour, j'ai envie de dire. On a joué avec les textures, les couleurs, la transparence, etc. On a rajouté un peu de glam dans tout ça.
Pas de plastique dans les packaging.
Voilà, exactement. Et donc voilà, je pense que ça plaît à toutes ces femmes-là. Ouais.
Et alors, par rapport aux traditions des femmes, j'en reviens aux femmes mexicaines, aux mayas, vous n'avez pas l'impression de les déposséder un peu de quelque chose qui finalement était resté très secret et qu'elles se... comment dire,
se voyaient pas,
se transmettaient, oui. Voilà, dans leur tribu, quoi.
Oui, c'est une très bonne question. Et d'ailleurs, on me la pose souvent. En fait, faut savoir que le Tepescoïte, il y a quelques années, au Mexique, il y a eu une grande explosion dans les années 80, je crois 84, dans la capitale, Mexico City. Il y a eu une grosse usine qui a explosé et il y a eu des très, très, très grands brûlés. Donc, c'était une vraie catastrophe. Je ne sais pas si vous en souvenez.
Si, ça,
ça vous parle.
Ouais. Ouais, ça me parle.
Il y a eu des très grands brûlés, des degrés assez importants. Et à l'époque, les Mayas eux-mêmes étaient venus en renfort auprès des autorités avec les Tepescoïtes en disant, nous, on peut vous aider parce que nous, on utilise cette plante depuis toujours, justement pour les brûlures, aussi pour les brûlures. Et c'est à ce moment-là, en fait, que la communauté scientifique a découvert le Tepescoïte.
D'accord.
Donc c'est une plante qui est utilisée dans le milieu médical, qui est très utilisée, okay, justement par rapport à cette partie-là.
Okay.
Voilà, moins dans la cosmétique en fait. Donc j'ai pas vraiment révélé un secret en tant que tel, parce que eux-mêmes l'avaient déjà fait,
oui, voilà,
à l'époque.
Voilà.
Par contre, moi, ce que je fais, c'est que je permets à un plus grand nombre de connaître la plante. Après, il faut savoir que les Mayas, ils ont une hantise qui est tout à fait justifiée, c'est la crainte de voir leur communauté s'éteindre.
Ouais, c'est ça.
C'est un vrai enjeu pour les Mayas. Ils le disent eux-mêmes. Nous, notre crainte avec l'exode rural, vous voyez, le fait qu'on impose l'espagnol, et c'est normal parce que c'est une manière d'avoir une langue en commun pour une nation.
Avec le reste du pays. Mais
le problème, c'est l'extinction de leur propre langue. Et eux, c'est un vrai, vrai, vrai enjeu pour eux. Donc, quand moi, je suis venue avec mon projet, au contraire, ils étaient hyper contents que je puisse les faire connaître davantage. Donc, non, je ne révèle pas un secret. Au contraire, je le transmets. Et plus je le transmettrai, et mieux ça sera pour eux. Ils laisseront ainsi une trace de plus, parce qu'ils n'ont pas besoin de moi pour ça.
Bien sûr,
c'est tellement riche, la culture, qu'il n'y avait pas de souci. Mais voilà, moi, je suis juste un autre petit vecteur de transmission de leur culture, en fait.
Et donc, vous avez parlé de votre action auprès des femmes et tout. Ça leur permet de faire quoi, en fait?
Pas mal de petites choses. Il faut savoir que donc là où elles vivent, elles vivent un peu en autarcie, c'est-à-dire que c'est des régions un peu reculées. Hein. On n'est pas dans des grandes villes, c'est la campagne, etc. Il y a qu'une seule route pour accéder, et c'est à sens unique. Donc quand vous arrivez, c'est un peu compliqué.
Avec un bus ou un camion,
c'est pas possible. Vous klaxonnez, vous faites marche arrière. Enfin, c'est très très compliqué. Il faut imaginer un peu les conditions. Donc imaginez déjà l'éducation.
Voilà,
déjà, imaginez l'éducation. Il y a une école pour tout le village. Les professeurs n'étant pas payés, ils ne viennent pas forcément. Donc, vous savez, vous allez à l'école, vous arrivez, le prof n'est pas là, vous repartez parce qu'en fait, il n'y a pas cours, tout simplement. Donc, c'est très compliqué. Donc, l'une des premières choses qu'ils nous ont dit, c'est au moins l'éducation pour les enfants. Vous voyez, la capacité à pouvoir payer l'enseignant, à défaut que l'État le fasse, que nous, on puisse le faire, pour au moins donner la base à nos enfants, pour qu'ils ne vivent pas forcément la même vie que nous. Ça paraît tout bête comme ça, mais l'éducation, c'est la base de tout.
Ouais,
c'est la base de
bien
tout.
Sûr.
Voilà. Donc, nous, on s'est engagés par rapport à ça, en disant, bon, on va essayer au moins faire en sorte de pouvoir payer mensuellement un professeur pour qu'il puisse venir éduquer les enfants, tout simplement, à l'école.
D'accord.
Donc ça, c'est tout simple, mais c'est un paraît primordial.
Évidemment, c'est vital. C'est vital. Alors, vous, il y a aussi quelque chose qui m'a plu, c'est que vous avez des valeurs très fortes. Et voilà, vous ne faites pas que surfer sur la mode végane, par exemple, puisque vous ne commercialisez pas dans certains pays qui ne respectent pas l'interdiction de tests sur les animaux.
Oui, en effet. Oui, pour moi, le véganisme, ce n'est pas juste une mode. Au contraire, je pense que c'est une vraie tendance de fond. Oui, alors c'est vrai qu'on a pas mal de hipsters, etc., qui surfent autour de ça, et voilà. Mais il y a au-delà de ça, ça traduit quelque chose de la société, en fait. Donc, pour nous, c'est très important. Quand on s'est labellisé vegan, c'était une vraie démarche. D'ailleurs, je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, mais se labelliser vegan, derrière, ça veut dire pas mal d'audits et beaucoup de travail, en fait. C'est-à-dire que moi, dans les formules, j'ai quand même, au bas mot, parfois 40-50 ingrédients pour les formules les plus compliquées. C'est-à-dire que pour chaque ingrédient, faut faire les tests derrière. Et donc, ça veut dire aller voir sur place, donc études documentaires d'abord, et après, sur place, les audits auprès des fournisseurs. Quand vous travaillez avec des petites coopératives comme ça, je vous laisse imaginer, le travail est...
C'est énorme.
Donc, ça prend un temps fou. Ça prend un temps fou, c'est fastidieux. Nous, moi, j'ai pas une grande équipe derrière moi. Donc, au départ, c'était moi qui le faisais. Maintenant, je délègue. Mais au départ, c'était moi qui le faisais. Quand vous envoyez un mail, vous avez pas une réponse avant 2 semaines.
Ouais, c'est ça.
Ça traîne, c'est long, etc. C'est fastidieux. Donc, si on ne croit pas à ça, on le fait pas.
On s'engage pas.
Donc, c'est pas juste une tendance comme ça. Et c'est on fait parce qu'on y croit. D'ailleurs, je tiens à dire, c'est que le fait de pas aller en plus sur le marché chinois, moi, ça me coûte aussi. C'est un des plus gros marchés au monde. Pour une start-up, vous avez besoin de faire du chiffre d'affaires à un moment donné.
Il faut vivre.
Exactement. Là, on a été lauréat pour les victoires de la beauté cette semaine.
Oui, j'ai vu. Félicitations.
Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Mais il faut savoir qu'il y a une délégation chinoise qui est venue cette semaine. Et mardi, mercredi, tous les lauréats avaient des rendez-vous avec des Chinois, sauf Mawena.
Ouais.
Voilà. Typiquement, un exemple concret.
Ouais.
J'ai perdu un marché exponentiel grâce.
Oui.
Slash.
Voilà. Ouais, voilà.
Pour à mon engagement par rapport à ça, vous voyez.
Ouais.
Donc non, c'est pas une tendance où je surfe pas sur une mode. Non, ça a des vraies conséquences sur mon activité.
Bien sûr, bien sûr. Et vous vous y tenez, quoi qu'il arrive, vous assumez totalement.
Ah oui, je suis très à l'aise avec ça, bien sûr.
Alors, beaucoup d'ingrédients viennent de très loin.
Oui.
Donc, comment vous vous placez par rapport du point de vue écologique, en fait ?
Oui, non, mais vous avez tout à fait raison de me dire ça, parce que c'est la chose qui me chagrine le plus dans mon projet, en fait. Effectivement, je fais venir des ingrédients du Mexique, d'autres qui viennent de Guinée pour l'hibiscus, etc. Pour quelqu'un qui a plus à travailler sur la COP21, vous imaginez déjà,
Le bilan carbone.
Le bilan carbone, non, on n'est pas très bon là-dessus. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on a réfléchi, quand on a fait notre brainstorming pour créer les produits, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour compenser ça, justement. Il y a bien des solutions qui existent, et c'est pour ça qu'on est parti sur du verre, déjà, et pas du plastique, parce qu'on peut pas... Enfin, non, c'est pas possible, en fait. Il faut compenser et trouver une alternative avec tout ce que ça implique derrière. Donc, c'est pour ça qu'on est parti sur ces packagings-là. On travaille avec des étuis qui sont en carton recyclé, avec des encres végétales. Donc, on n'a pas perdu en qualité. Par contre, on a gagné, en fait, en traçabilité, en fait, en recyclage et renouvellement du produit. Et là, actuellement, on est en train de pencher sur une solution. Donc, c'est encore une hypothèse, mais voir comment on peut faire en sorte que les consommatrices qui achètent nos produits puissent retourner les packs primaires, les flacons, auprès du revendeur pour que nous, on puisse les réutiliser et les refiler, en fait, tout simplement. Re-remplir derrière pour que, ça continue à tourner.
Comme une consigne, en fait.
Comme une consigne, voilà. C'est pas encore tout à fait fini, abouti, on réfléchit dessus. On est encore une entreprise jeune, on travaille, mais on cherche des solutions. Et c'est aussi être une entreprise aujourd'hui responsable.
Responsable, Alors, l'avenir de Mawena, c'est quoi ? C'est d'autres produits, plus de développement à l'international ? Si vous vous projetez dans 5 ans, on va dire.
Ah ouais, on a plein de projets. C'est ça qui est merveilleux, c'est quand on commence, on s'arrête pas, en fait. Effectivement, on a d'autres produits qui vont arriver normalement d'ici 2019 sur le marché. C'est également des rencontres. Je reviens de Madagascar, en fait.
Oui.
On a lancé inspiré de ce qui s'est passé au Mexique. Vous savez, quand je voyage, je partage mon voyage, mais de A à Z. C'est-à-dire que, sac à dos. Donc, quand on prend un tuk-tuk, je montre, etc. Les routes sinueuses, je montre tout. Je partage absolument tout avec mon audience. Et du coup, inspiré de ça, je me suis dit, pourquoi pas, lorsque j'irai à Madagascar, qu'on a des fournisseurs à Madagascar, pourquoi pas partager ça avec la communauté qui suit les aventures de Mawena.
Ouais.
Et donc, on a lancé en fait un concept qu'on appelle les Beauty Trip, où en fait, on partage tout. Donc, je pars avec une réalisatrice, caméra en main, et qui suit dans mon voyage et qui m'accompagne dans les coopératives. Le maroula, comment on l'extrait. Les femmes qui sont derrière, etc. Ensuite, on va dans les marchés locaux. Et tout ça, on partage, on rencontre les femmes du pays en question et on le met dans des petites vidéo sympa qu'on va diffuser prochainement sur les réseaux sociaux.
D'accord. Sur Instagram,
sur
Facebook.
Sur Insta, YouTube, voilà.
YouTube,
il y aura des vidéos
sûr.
Un peu plus longues pour
ceux
qui veulent aller un peu plus loin. Sur Instagram, ce sera des formats plus courts. Donc il y en aura un peu pour toutes.
D'accord.
Et on a rencontré, et comme je suis très engagée et aussi féministe, je tiens à le dire.
Oui.
Voilà. J'ai rencontré également des. Parce que pour moi, c'est important de montrer en fait ce que ça veut dire la féminité dans ces pays-là aussi. Vous voyez, on est une marque de beauté après
bien
tout.
Bien sûr, exactement.
C'est pas juste des produits de beauté. Qu'est-ce que ça veut dire derrière ?
Voilà. Vous voyez.
Et donc, on a aussi, quand j'ai fait mon programme, j'ai aussi voulu rencontrer les femmes du pays et voir ce que ça veut dire pour elles la féminité. Donc, c'est comme ça qu'on a rencontré une slameuse hyper engagée, une petite jeune de 21 ans qui slame comme personne et qui raconte en fait les travers de la société malgache par exemple à travers le pays. On a rencontré des générations de femmes, forcément. On a rencontré une mère et sa fille qui nous montraient leur propre rituel de beauté chez elles dans leur salle de bain. On a rencontré une youtubeuse qui fait ses propres produits cosmétiques, qui nous a montré comment elle faisait les choses, etc. Donc en fait, on montre
c'est plutôt sympa.
Et l'idée, c'est de montrer ça un peu partout dans le monde. Bien sûr, le prochain voyage, c'est au Mexique. Ouais. Donc je vais le refaire, la même chose que j'ai fait à Mada au Mexique. Et ça, ça va parler encore un peu plus de monde. Mais l'idée, c'est de faire un peu différents pays, la Malaisie, et de faire des voyages autour de la beauté, tout simplement.
Ouais, sympa.
C'est en fait montrer ce que moi, j'ai découvert... sans caméra, et le partager. Et voilà, toujours dans cette transmission de secrets et de rituels des femmes dans le monde.
Des femmes dans le monde. Ouais. Ouais, c'est un beau projet, ça.
Ouais, plutôt ambitieux.
Ouais. Et Mawena, ça veut dire quoi?
Pour la petite histoire, en fait, c'est un prénom féminin.
Voilà. D'accord.
Pour la petite histoire, donc, dans ma culture, en fait, quand une femme est enceinte et qu'elle est sur le point de donner la vie, elle doit donner un prénom en fonction de ce qu'elle ressent. Fonction de sa grossesse, si c'était une grossesse difficile ou c'était l'enfant désiré, tant attendu, elle donne un prénom en fonction de cela. Un peu comme les Chinois aussi d'ailleurs, ils donnent toujours des prénoms en fonction de leur aspiration du moment.
D'accord.
Et bon, pour moi, ça a loupé parce que je m'appelle Elena, donc voilà. Par contre, ça se fait. C'est quelque chose qui est naturel et normal dans ma culture. Et en fait, Mawena, c'est un prénom féminin qui veut dire je suis vue telle que je suis.
D'accord.
Et quand on a créé la marque, on réfléchissait à des noms de marque. Et à un moment donné, en faisant le brainstorming, ça a sonné comme une évidence. On s'est dit, c'est ça qu'on doit faire, en fait. C'est Mawena, on est une marque transparente. Nos flacons sont transparents. On communique en toute transparence avec la communauté, etc. Bingo. Partons sur ça.
Totalement cohérent.
Partons sur ça. Ça faisait sens. C'était une évidence pour nous.
Ouais, voilà. Ouais. Super. Merci beaucoup, Elena.
Merci à toi, Chantal.
J'ai été ravie.
Merci beaucoup.
Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, abonnez-vous sur iTunes et SoundCloud et n'hésitez pas à nous laisser un avis et surtout une note. Perso, j'adore les 5 étoiles. Et sachez que maintenant, Beauty Toaster, le podcast, est aussi diffusé sur Deezer. Pour être informé des nouveaux épisodes, c'est facile. Ils sont annoncés sur le compte Instagram et la page Facebook de Beauty Toaster. Suivez-nous. En attendant, passez une bonne semaine et rendez-vous mercredi prochain à midi.